Comme chaque vendredi, Le Monde selon Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Nous venons de vivre une très riche séquence électorale de part et d'autre de la planète et à venir d'ailleurs le mid-term la semaine prochaine aux États-Unis. On a voté en Ukraine, en Tunisie, au Brésil. Allez, on commence par le Brésil.
Oui, je trouve que sur ces élections, il y a souvent des commentaires qui sont incomplets. Par exemple, Madame Rousseff a été réélue au Brésil pour un deuxième mandat. Vous rappelez que son prédécesseur Lula avait fait lui-même deux mandats. Mais on n'a peut-être pas assez souligné qu'elle avait été réélue à l'arraché, avec seulement 51,6% des voix. La participation était élevée, donc c'est une participation à 79%. Et le candidat de l'opposition, M. Neves, qui est un candidat social-démocrate, c'est le nom du parti, mais plutôt de droite sur l'échiquier brésilien, a eu énormément de voix de la candidate écologiste du premier tour, Marina Silva. Or, la plupart des spécialistes, c'est pas possible que les électeurs de Marina Silva se reportent sur M. Neves. Donc, il y a un élément d'usure. Et il paraît clair que Mme Rousseff va avoir plus de difficultés à présider, à gouverner le Brésil que ce n'était le cas dans la séquence précédente. D'autant que la croissance est à 0,6% au Brésil, c'est partie des émergents qui caracolaient. Et enfin, le vote a montré un gros contraste entre les électeurs du Nord, plutôt pauvres, entre guillemets, et les électeurs du Sud, Sao Paulo et les autres villes. Donc c'était trop présenté comme finalement simplement une victoire, alors que c'est la difficulté de cette victoire qui est surtout frappante.
Et puis on a voté, et on s'y est penché effectivement davantage, et en Ukraine et en Tunisie, où là les pronostics journalistiques furent déjoués pour la Tunisie. C'est Nida Tounes qui a remporté ses dernières législatives.
Oui, mais même chose, il y a un décalage dans les commentaires, puisque en Tunisie, il y a eu 49% d'abstention. 49%. Donc, on fait, comme on parle sans arrêt maintenant à propos des élections, c'était vrai aussi des européennes chez nous, vous rappelez, en pourcentage et pas en voix, il y a des phénomènes qui échappent à ce type d'analyse. Donc, donc c'est en effet Nida Younes, qui a été créée par un ancien ministre de Bourguiba et puis de Ben Ali, que j'ai connu moi-même d'ailleurs, Caïd Essebsi, et qui est arrivé en tête avec 38%, mais ça ne lui donne que 80 sièges sur 217. Alors que le parti islamiste présentait trop vite comme tout à fait battu, Ennahda a eu quand même 31% des voix, ce qui lui donne quelque chose comme 70 sièges. Donc la différence n'est pas énorme entre les deux. Alors Ennahda a 20 sièges de moins que dans les élections de 2011, mais je répète, la majorité est à 108 sur 217. C'est pour ça que M. Essebsi dit lui-même dans les interviews qu'il n'est pas exclu qu'il s'allie à une coalition avec les islamistes. C'est pas fait, mais il n'écarte pas cette hypothèse. Donc l'interprétation simple, il faut faire attention. Il faut faire attention, même si on peut dire que la Tunisie est quand même le seul des pays concernés par le « entre guillemets printemps arabe » où ça se présente plutôt bien, c'est plutôt encourageant, mais c'est manifestement un cas particulier. Même dans ce cas particulier, il faut faire attention à la surinterprétation des résultats. Tout est suspendu aux élections présidentielles du 23 novembre, en réalité, en Tunisie.
Et puis, rajoutons encore, séquence riche, disais-je, électorale, Kiev, l'Ukraine.
Oui, alors, Ukraine, il faut se rappeler qu'il y a 15% des électeurs à peu près qui n'ont pas pu voter. La moitié des électeurs dans les deux régions russophones, disons, la région de Donetsk et de Lugansk, il manque 25 députés sur 225, ça n'a pas été pourvu. Mais là aussi, il y a eu 48% d'abstention. Même si on ne tient pas compte des 15%, 48% d'abstention. Donc il faut faire attention à la signification de ces résultats. Le parti du président Porochenko, qui a gagné les élections, qui est une orientation nettement européenne, a eu 23% des voix. 23% sur, disons, la moitié des votants dans cette zone, ce n'est pas un mouvement de fond non plus. Donc il faut faire attention à l'interprétation. Celui du Premier ministre, qui lui est plus dur sur la question russe, 11%. Bon, une coalition pro-occidentale l'emporte, pro-européenne, bien sûr, bien qu'ils soient en désaccord sur la façon de traiter la Russie, mais c'est donc plus compliqué que de dire immense vote pro-européen, point. Je rappelle que leur problème numéro un est économique et que leur PIB va baisser de 8% cette année.
Et puis on attend, alors là c'est la semaine prochaine, c'est un grand classique, hein, le mid-term aux États-Unis, où tous les pronostics montrent que, en tout cas, le parti de Barack Obama de toute façon ne peut plus rien faire puisqu'il est né à son deuxième mandat, c'est en berne, les démocrates sont en berne.
Oui, il suffit d'ailleurs que les républicains gagnent 6 sièges Alors qu'il y a 21 sièges démocrates qui sont soumis à renouvellement, il suffit que les républicains gagnent 6 pour que Barack Obama perde le contrôle du Sénat. À ce moment-là, il devient ce qu'on appelle dans le jargon américain un lame-duck, un cadran boiteux jusqu'à la fin. Rappelons que les présidents en fonction perdent à peu près toujours les mid-term, donc ce n'est pas un événement stupéfiant. Ce qui est frappant à propos de ces élections, c'est le peu d'intérêt qu'elles ont suscité jusqu'à maintenant, alors que depuis des dizaines d'années, en tout cas dans le monde occidental, les élections américaines, même intermédiaires, étaient considérées comme un élément déterminant de la géopolitique. Peut-être que les analystes, l'opinion a déjà intégré le retrait relatif des États-Unis. D'ailleurs, on exagère ce phénomène. Bon. Et d'autre part, le fait qu'Obama paraît déjà affaibli. Mais nous en reparlerons, puisqu'elles n'ont pas encore eu lieu, celles-là.